Aujourd'hui, cette table ronde, faut-il convertir tous les musulmans? Une question qui a en tout cas un peu bousculé nos intervenants quand je leur ai posé la question. Donc il y aura matière à débat. Donc pour en discuter ce matin, nous accueillons donc frère Adrien Candia. Vous êtes religieux au couvent dominicain du Caire. Vous y menez une vie de recherche au sein de l'Institut dominicain d'études orientales. Vous avez également rédigé une thèse sur de la théologie islamique que vous avez soutenue récemment, il me semble. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'islam et de pièces de théâtre. Et vous avez notamment rédigé Comprendre l'islam, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien, un livre que vous pourrez retrouver au village, à la librairie, si vous voulez approfondir le sujet. Et vous exercez au Caire une activité pastorale aussi auprès de la paroisse francophone. J'ai également le plaisir d'avoir à mes côtés Mathieu Taïeb. Vous avez de nombreuses casquettes, un parcours assez riche. Vous êtes ancien officier de l'armée de terre. Vous êtes réserviste actuellement au sein de la réserve opérationnelle de l'état-major des armées. Vous êtes également chef d'entreprise, professeur d'université, routier scout d'Europe. Et oblat dominicain. Bénédictin, pardon, ma langue a fourché. De l'abbaye de Solesmes, okay. Pardon. Et surtout, vous êtes un ancien musulman converti au christianisme. Vous racontez d'ailleurs l'histoire de votre conversion dans un ouvrage qui est sorti très récemment, en juin dernier ou en mai dernier, Devenir votre frère, français, militaire et musulman, la fraternité entre chrétiens, la convertie, que vous trouverez également à la librairie du village. Donc voilà, vous nous parlerez peut-être plus de votre parcours, comment vous êtes venu au Christ et surtout. Comment vous transformez un peu cette conversion vers l'évangélisation. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Vogel-Turenne. Vous êtes enseignante de physique-chimie et auteure de nombreux ouvrages également, mariée, mère de famille. Vous avez publié récemment « De l'islam à Jésus-Christ, 12 récits de cœurs transformés ». Donc, qui est un recueil de témoignages, voilà, de personnes issues de l'islam, des parcours très très variés, d'anciens musulmans issus de milieux sociaux divers. Et donc c'est des témoignages très riches pour comprendre justement le parcours de ces nouveaux chrétiens. Alors, donc faut-il convertir tous les musulmans? La question peut être un peu provocante. Qu'est-ce que peut dire l'Église, frère Adrien? Quel regard l'Église porte sur nos frères musulmans? Et pourquoi est-ce que l'Église étudie l'islam comme vous le faites? Est-ce justement pour convertir ou pour quelle raison?
L'Église, au plan magistériel, au plan du magistère, de l'enseignement du magistère, n'a qu'assez récemment donné un enseignement sur précisément et nommément, non pas tant l'islam que la foi des musulmans, il est question des musulmans, dans une déclaration au Concile Vatican II, qui est la déclaration Nostra Aetate, où il est question des religions non chrétiennes et où il y a un paragraphe spécifique concernant les musulmans. Il y a un paragraphe spécifique concernant les juifs, un spécifique sur les musulmans, et puis ensuite tout le reste, c'est tout ensemble. Et donc, il y a dans la présentation que le magistère fait une place particulière pour les musulmans. Cet enseignement de Nostra Aetate vise d'abord, c'est un texte très équilibré, d'ailleurs très très riche, qu'on n'a pas fini à mon avis de recevoir, qui rappelle que Dieu s'adresse à tous, que notre mission de chrétien, c'est d'être les collaborateurs de Dieu, de l'Esprit-Saint, présent, déjà présent, et que la conversation que qui compte, c'est pas celle que l'Église doit avoir avec le monde, ni celle que l'Église doit avoir avec Dieu, mais celle que Dieu a avec le monde. Et que cette conversation ne nous a pas attendus. Et que Dieu parle aux hommes de différentes manières, y compris dans les cultures, dans l'histoire des hommes. Jean-Paul II ajoutera, c'est pas dans Nostra Aetate, dans les religions même, l'Esprit-Saint est à l'œuvre, parle, et la mission de l'Église, c'est pas de se substituer à Dieu, de se dire, je vais rentrer en dialogue avec le monde, mais bien d'être au service du dialogue entre Dieu et le monde. Avec les musulmans, il y a une particularité que reconnaît évidemment le magistère à ce moment-là, et cette particularité, elle n'est pas réjouissante, c'est qu'on a 14 siècles de polémiques, de concurrence et de parfois de guerre dans cette histoire commune, assez partagée, et qui est une histoire difficile, qui rend les choses assez compliquées, alors même que le Concile souligne aussi que nous avons des points. Il ne s'agit pas de points communs ou de choses comme ça, mais plutôt d'éléments que l'Église ne peut regarder qu'avec estime. Le goût de la vie morale, la prière, le jeûne, et tout un tas d'éléments comme ça, des figures bibliques qui ont une place dans la piété musulmane. Enfin, cela fait des éléments, non pas des éléments communs, parce que c'est pas un jeu où on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on n'a pas en commun, mais bien des éléments que l'Église ne peut regarder qu'avec estime. Mais le point principal de particularité de la relation entre chrétiens et musulmans, c'est cette histoire douloureuse, difficile, complexe, qui, je crois, rend notre présent toujours compliqué. C'est certainement pour cela qu'il y a congrès mission après congrès mission des tables rondes sur l'islam, alors que je n'ai pas l'impression qu'il y en ait des foules sur le bouddhisme, l'hindouisme et je ne sais quoi. Difficulté-là est aussi, bien sûr, une difficulté pour annoncer le Christ. On y reviendra certainement, mais naturellement, tout est vécu réciproquement d'ailleurs, sur le mode de la concurrence et de la polémique, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se mettre à l'écoute du Christ. Enfin, c'est le sujet de notre table ronde, je pense. Bon, je ne vais pas développer davantage.
Justement, Mathieu Taïeb, est-ce que cette concurrence, cette polémique, vous l'avez ressentie lorsque vous étiez musulman ou au sein de votre famille ou,
Personnellement, non. Pas, non. Je dirais même d'habitude ou au quotidien, pas du tout. Qu'on vivait autre chose que ce que vivaient les catholiques, chrétiens ou autres populations autour de nous, oui. On savait très bien que nous n'avions pas du tout les mêmes éléments, pas la même culture et pas du tout la même foi. Et oui, dans ce sens-là, oui. Mais sinon, moi, personnellement, dans ma famille, on n'a pas vécu de telles choses. En fait, voilà. Déjà, on a été un petit peu épargnés, parce qu'on était déjà en campagne. Voilà. Il faut bien faire ce distinguo-là aussi. Le monde de la ruralité et le monde, en fait, citadin, hein, urbain, c'est complètement différent, ou périurbain. Donc, on a été assez préservés, on était effectivement en campagne. Donc, voilà. Donc, nous, on n'a pas eu vraiment ce souci ces difficultés.
Est-ce que vous n'étiez pas dans la communauté musulmane, finalement ?
On n'était pas du tout de la communauté musulmane. On faisait partie de la Oumma, certes, mais pas dans la communauté. Hein, voilà.
Et vous, Christine, par contre, dans vos témoignages, on ressent, pour certains, ces difficultés, ce regard sur les chrétiens, et inversement.
Alors, pas toujours. Hein, ça dépend vraiment. Ces témoignages, comme vous l'avez dit, sont très, très variés. Hein, mais il y a des fois où il y a une espèce de rejet ou de peur des chrétiens, de la part des personnes de tradition musulmane, essentiellement par peur de l'inconnu, quoi, hein, de ne pas le connaître exactement et de ne pas faire partie de la même communauté.
Vous parliez, frère, non pas de points communs, mais en tout cas de choses que l'Église estime. Ma question, c'est les musulmans et leur relation à Dieu. Comment est-ce qu'ils vivent leur relation à Dieu Et est-ce que cette, ce que vous évoquiez, cette manière de vivre leur foi peut être aussi un chemin pour nous les chrétiens pour leur parler du Christ ?
C'est très difficile de répondre à votre question parce qu'elle est extrêmement générale. Vous parlez d'un milliard de personnes en me demandant quelle est la relation à Dieu d'un milliard de personnes. Il faudrait être complètement fou pour oser répondre à cette question-là. Pourquoi ? Parce que il y a d'une part des rapports de proximité ou pas à leur propre religion qui va être très différente. C'est ce qui fait la différence entre une religion et une secte, c'est qu'il y a des niveaux d'adhésion dans une société qui sont très 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 divers, d'une part, et d'autre part, il y a des centaines de manières d'être musulman. On ne peut pas parler des musulmans en général en se disant « ah bah tiens, c'est comme ça ». Il y a d'abord des cultures qui sont très différentes. Au Caire, où je vis depuis maintenant 11 ans, on forme régulièrement à l'islamologie des frères dominicains d'un peu partout dans le monde qui ont besoin, pour une raison ou une autre, de se former à ça. Et on avait un frère pakistanais qui est arrivé chez nous et qui n'en revenait pas de ce qu'il voyait en Égypte. Il disait, mais je croyais savoir ce qu'était l'islam parce que je vis dans un pays musulman. Et en fait, l'ambiance égyptienne n'était pas la même. Il voyait des Égyptiens qui discutaient de leur rapport au hadith, c'est-à-dire à la tradition prophétique, en disant, oui, moi, j'y crois pas, etc. Il disait, mais on peut dire ça ? Et en Égypte, c'est possible, et ça choque pas grand monde. Ça ne veut pas dire qu'on peut le dire à la télévision ou en chair, mais globalement, il y a une ambiance beaucoup plus détendue quand on parle de religion qu'au Pakistan. Est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas l'islam quand il était au Pakistan ? Ben non. Est-ce que ça veut dire que le véritable islam, c'est le Pakistan et pas l'Égypte parce qu'ils sont gentils alors qu'au Pakistan, ils sont méchants ? C'est ridicule. C'est des cultures différentes, c'est des rapports religieux différents, c'est des histoires différentes, c'est-à-dire que Pakistan, il y a un siècle, c'est peut-être différent, d'ailleurs ça ne s'appelait pas le Pakistan. Enfin bref, tout ça est au sein même de chaque pays, vous avez des courants qui sont extrêmement différents. Vous avez des courants pour qui la vie spirituelle va être essentielle. Moi, j'interviens cet après-midi dans Toulouse pour un groupe de soufis qui a entendu dire que j'étais là, qui se dit ça va être l'occasion de parler de spiritualité avec un chrétien. Il se trouve que j'ai un ami sur le lot et puis il se dit viens parler avec nous de spiritualité. On va pas faire de la confusion. Ils savent très bien que je suis chrétien. Je vais pas leur dire tout ça c'est pareil, mais ça les intéresse. Il y a des courants au sein de l'islam qui considèrent que ces gens-là non seulement parlent avec des chrétiens, mais sont en plus complètement hérétiques parce que la vie spirituelle, ça n'existe pas. On n'a aucune trace dans la vie du prophète qu'il faisait des prières silencieuses. Donc, on n'a pas le droit d'en faire. Et tout ça, c'est l'islam. On a tendance à vouloir que l'islam ressemble à ou bien la projection de nos peurs, ou bien la projection de nos envies d'ouverture et de tolérance. Dans les deux cas, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a plein de musulmans différents. L'islam en tant que tel n'existe pas vraiment. En tant que quantité, c'est ce qui existe, c'est des musulmans qui se réfèrent à des traditions communes. Il y a des différences entre eux, il y a des points communs. Je ne dis pas que tout ça est un vaste n'importe quoi. C'est une tradition religieuse complexe et donc qui représente beaucoup de choses. Donc le rapport à Dieu va être très différent selon. C'est une banalité de dire ça. On pourrait dire la même chose pour les catholiques. Déjà, on va dire le rapport à Dieu des catholiques, ça va être assez différent d'une personnalité à une autre. En islam, c'est certainement peut-être encore plus différent parce que la place de ce qu'on va appeler la spiritualité va occuper des selon les discours de tel ou tel courant, de telle ou telle école, une place soit centrale, soit plutôt rejetée. Vous avez au sein de l'islam, de la tradition musulmane, des auteurs qui considèrent que de Dieu on ne connaît pas la nature, on ne connaît que sa volonté, la loi, et donc qui vont avoir un rapport à la loi qui peut devenir presque névrotique. Vous en avez d'autres qui ont au contraire une vision du monde comme théophanie, comme révélation de Dieu, et donc on va voir Dieu se révéler à travers le créé. Évidemment, ça donne un rapport au monde très très différent.
Mathieu, vous vouliez réagir ?
Alors, différentes réalités, je suis complètement d'accord. Hein. Que ce soit, en fait, vous êtes au fin fond du Maroc, ou vous allez aux Émirats Arabes Unis ou en Syrie, vous aurez un rapport à Dieu complètement différent et vous aurez des cultures complètement différentes. Vous aurez, en fait, un poids social différent, vous aurez des coutumes différentes. Mais ce que l'on trouve effectivement de commun, c'est effectivement beaucoup de transcendance. Moi, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans l'évangélisation de rue. Et puis, ça se passe toujours très, très bien avec les musulmans de la rue. Au contraire, ils sont très, très en recherche de Dieu, finalement, et beaucoup de transcendance. Et on a beaucoup de choses à apprendre de leur part, de les écouter. Hein. Beaucoup de gens disent, non, passons du temps à les écouter, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et on en ressort complètement grandi. Très renforcés dans notre foi parce qu'ils sont en recherche de Dieu et je pense que c'est ça qui est commun en eux, c'est vraiment cette transcendance et cette recherche de Dieu surtout, quelle qu'elle soit et où qu'on soit. Ça, c'est une première chose. Rapport à la violence, on parlait de violence et de brutalité tout à l'heure, voire de guerre, de troubles, d'un pays à l'autre, ça sera différent là aussi. Hein. C'est une question de culture, hein. Donc clairement. Vous parliez du Pakistan, bon, oui, bon, certes. Aux Émirats arabes unis, ça se passera différemment. Au Soudan, ça se passera également différemment. En Algérie, et puis au Maroc, encore plus. En Mauritanie, je n'en parle pas. Donc, et puis, je ne parle pas du Mali non plus. Donc, ce sont vraiment des réalités, en fait, bon, culturelles, certes, bon, et puis tribales aussi. Hein. N'oublions pas, les Berbères sont également musulmans pour la plupart. Donc, là aussi, il y a ce rapport au groupe et puis à la transcendance, quelque chose de transcendant. Voilà.
Donc, comme vous disiez, il n'y a pas un islam, mais des islams. Et est-ce qu'il y a une seule façon de leur annoncer le Christ, ou est-ce qu'il y a du coup plusieurs façons de leur annoncer le Christ? Et vous, déjà, dans votre parcours...
Déjà, parlons en vérité, ça serait déjà pas mal. Je pense que... Parce qu'eux, ils parlent donc selon leur vérité, hein, en toute sincérité. Ils y mettent même leur trip, en fait, hein, quand ils discutent avec nous. Je pense que, déjà, parler en vérité et dire ce qui est et qui est Jésus. En fait, ils sont vraiment en recherche de... c'est mon cas, d'ailleurs. Hein, qui est Jésus dont on me parle, en fait. Parce que, bon, on me le disait, je l'entendais, en veux-tu, en voilà. Mais moi, je ne savais pas du tout qui c'était. Hein, je voyais sur une croix, je ne savais même pas qui c'était, en fait. Bon, bref. Mais... oui, je pense qu'il faut vraiment parler en vérité, montrer qui on est. Ils aiment beaucoup en fait voir de la ferveur en fait chez les chrétiens, voir des gens qui sont vraiment en fait très fervents, très pratiquants et qui n'ont pas peur en fait de parler de leur foi et de leur croyance. Voilà, ça c'est très important. Et nous ne cachons pas, hein, ça c'est une réalité. Et ils aiment beaucoup voir effectivement des croyants. Un musulman par exemple, je pense que frère Adrien, vous serez peut-être d'accord avec moi, ils ne comprennent pas l'athéisme, en fait. Ça ne leur parle pas. Enfin, voir quelqu'un d'athée ou de non-pratiquant, c'est impossible. Si vous me permettez, j'ai une petite anecdote rapidement par rapport à ça. Alors, j'ai un frère... un frère donc oblat, donc il s'appelle Christian, il a environ 55 ans maintenant, et donc il y a une dizaine d'années, il ne pratiquait pas du tout, il ne pratiquait plus, il était certainement de culture et de foi en fait chrétienne initialement, mais il ne pratiquait pas. Et dans le cadre de son travail, donc il travaillait pour EDF, enfin dans notre cité, il est envoyé donc à Ispahan en Iran pour 3 mois. Donc individuel, hein. Madame reste avec les enfants à la maison. Donc il est envoyé 3 mois donc à Ispahan et il se lie entre guillemets d'amitié, hein, donc il fréquente très souvent disons un ayatollah chiite. Et c'est l'ayatollah chiite qui l'a converti au christianisme en fait. C'est l'ayatollah chiite qui lui a parlé du Christ, qui ne comprenait pas que Christian ne soit sans foi, ne soit sans pratique, sans foi, sans ferveur, sans réellement de croyance et de pratique. Et c'est cet ayatollah chiite qui lui a parlé du Christ, qui l'a conduit donc au christianisme, du coup maintenant donc à la pratique religieuse et à la prière. Et puis maintenant il est oblat, vous voyez. Donc bon, donc si l'Esprit Saint ne souffle pas, bon, là il y a des choses qu'il faut qu'on m'explique. Mais bon, voilà. Donc n'hésitons pas de parler en fait. Et les musulmans sont très à l'écoute de ça, vraiment. Hein, si je peux me permettre.
Bien voilà. Sûr. Et vous, Christine, justement, dans vos témoignages, je cite celui d'Éric qui disait. Qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que la religion catholique était vraiment un trésor et pourquoi est-ce que les chrétiens ne partageaient pas ce trésor. Et il s'est même, il dit, senti un peu trahi. Si j'avais su ça avant, je n'aurais pas gaspillé toutes ces années dans l'islam.
Oui, alors Eric dit quelque chose de très fort. Il dit, vous les chrétiens, vous avez un trésor. Si vous n'en profitez pas, au moins laissez les autres en profiter. Il parle de notre foi. Parce que et lui est en colère, effectivement, parce qu'il a vécu en France. Hein, c'est un Malien, mais je crois qu'il est né en France même. Il a fallu qu'il attende une vingtaine d'années pour qu'on lui parle de Jésus, en fait. Hein. Il vit dans un pays réputé chrétien, parmi des chrétiens. chrétien. Et voilà, il entend... Alors, il entend parler de Jésus seulement très tardivement. Il y a aussi le cas d'une femme qui, elle, est française, française de souche, on va dire, qui a toujours vécu en France et qui, finalement, quand elle va au Maroc quand elle a une vingtaine d'années, entend parler de Dieu pour la première fois et se convertit à l'islam. Parce que voilà, elle devient amoureuse de Dieu et il n'y a que les musulmans là-bas qui lui ont parlé de Dieu. Elle a vécu 20 ans en France, jamais on lui a parlé de Dieu, jamais un chrétien ne lui a parlé de Dieu, jamais non plus elle est rentrée dans une église. Donc il y a une question qu'on a à se poser, nous chrétiens, hein, faire de l'évangélisation, comment on va dire, du prosélytisme, c'est pas forcément une chose souhaitable, mais simplement que notre foi transparaisse pour attirer les gens qu'ils soient musulmans, qu'ils soient simplement de athées ou de n'importe quelle religion. Hein, on a vraiment à être des témoins de Dieu, des témoins de notre foi.
Oui, j'aimerais juste aller dans le sens de ce que venaient l'un et l'autre de dire, et puis après ajouter un bémol. Une petite anecdote qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est un ami qui est prêtre maintenant, qui a été séminariste, évidemment, avant, et dans ce cadre-là, il était à Marseille, dans le quartier Nord, il faisait du travail social, et il avait été reçu... Tous les jours, il allait voir une famille d'origine marocaine, je crois, qui était là dans sa barre d'immeuble, et il allait leur rendre visite tous les jours. Ça se passait très bien. Il était à chaque fois reçu. On lui offrait le thé tous les jours, et tous les jours, le père de la famille, le patriarche, lui disait « Est-ce que tu ne veux pas te convertir à l'islam ?» Alors lui, il prenait ça en se disant « Bon, ouais, quand même, enfin, ils sont un peu naïfs de penser que voilà, moi je vais me convertir à l'islam. Je suis quand même séminariste, je sais un petit peu ce que je fais là. » Mais il éludait tranquillement avec un sourire en se disant « Bon. » Et puis, au bout de 15 jours de cette fréquentation quotidienne, il voit que tout le monde fait la tête. Il arrive, il dit « Mais il sent bien. » Alors il finit par prendre le père un peu à part. Il dit « Mais il se passe quelque chose ?»« Bah oui, ça fait 15 jours que tu viens. » Tous les jours, on t'a proposé notre religion et toi, tu ne nous as jamais proposé la tienne. Il disait, nous, on te la propose parce que c'est ce qu'on a de meilleur et toi, tu penses bien que la tienne, c'est ce que tu as de meilleur et pourquoi tu ne la proposes pas? Ils ne comptaient pas se convertir au christianisme, c'était pas du tout leur... Mais ils disaient, mince, c'est de la politesse, quoi. Le gars, il a quelque chose pour lui, il ne veut pas nous en parler, enfin, c'est quand même pas normal. Et ce que ça nous dit, c'est à la fois, évidemment, que on peut gagner un peu d'assurance et de fait, souvent en pays, enfin je connais l'Égypte surtout, on parle de religion beaucoup plus facilement qu'en France, et je crois que on a facilement peur en France que si on pense avoir raison, ça veut dire qu'on va être agressif vis-à-vis des autres. À partir du moment où on accepte que la personne en face croit elle aussi avoir raison, alors tout va bien, je veux dire, si tout le monde a le droit de croire qu'il a raison, on peut tout à fait accepter la discussion sans vouloir. Voilà. Le petit bémol que j'ajouterais, c'est qu'on pourrait croire en nous écoutant que finalement c'est simple, il n'y a qu'à se baisser, on n'a qu'à dire Jésus à tout le monde, et puis alors là, les musulmans n'attendent que ça, et ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce que je pointais au début... C'est une concurrence pas seulement religieuse, mais aussi de civilisations qui se sont construites beaucoup en regard et en conflit. Et donc ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement de l'agressivité personnelle, mais le sentiment que le groupe d'en face veut ma propre destruction, veut la destruction de mon groupe à moi. Et ça, c'est quand même assez fort. Il n'a échappé à personne, je pense, ici, qu'il y avait, vis-à-vis de l'islam en Europe, quelques craintes, un petit peu de peur. On va dire oui, mais tout ça est vrai parce qu'ils sont là en train de nous conquérir, je sais pas quoi. Très bien, mais je pousse souvent les Européens à se mettre un instant dans la peau d'un Égyptien musulman à qui on va dire l'islam est conquérant. Et où il va dire, attendez, conquérant, c'est-à-dire qu'il y a des pays musulmans qui envoient des troupes occuper des pays européens régulièrement. Non, parce que il va dire, parce que vu de chez nous, c'est plutôt ce que vous faites. en ayant, vous allez me dire, ce n'est pas des troupes chrétiennes, mais c'est une question de civilisation largement. Et en termes de, on va dire, non, mais évidemment, ce n'est pas des invasions militaires, mais c'est en termes de mode de vie et tout ça. Mais en termes de mode de vie, en termes de culture de masse, on ne voit pas des films égyptiens à l'affiche au cinéma dans Toulouse. On voit en revanche des films américains partout dans le monde arabe. On s'habille à l'européenne. Et donc, je ne dis pas, tiens, c'est eux qui ont raison. Ce que je veux dire par là, c'est que la crainte de destruction de ma propre culture, elle est fréquente, elle existe. Des deux côtés de la Méditerranée, avec en plus toutes les interprétations qu'on connaît qui renforcent encore les inquiétudes. Ce que je veux dire là-dedans, c'est pas distribuer les bons et les mauvais points, c'est dire que quand le Christ, ce qui nous convertit, c'est toujours le Christ, c'est la rencontre du Christ, c'est pas mes arguments, mes trucs, je sais pas quoi, c'est la rencontre du Christ. La question, c'est est-ce que je favorise ou pas la rencontre du Christ ? Et ce qui est certain, c'est que ces blocs de civilisation qui se font face ne favorisent pas naturellement cette rencontre. Et au contraire, si le Christ apparaît comme le drapeau de mes adversaires, de ceux qui veulent la destruction du groupe auquel j'appartiens, parce que je ne l'ai pas choisi, parce que je suis né dedans, ça ne donne pas très envie de le rencontrer. C'est un obstacle plutôt à l'évangélisation. Et si on arrive, en ayant une évangélisation plutôt conquérante, en se disant « Allez, on va y aller, puis on va leur expliquer un peu ce que c'est que la vérité », ça renforce plutôt ce réflexe de concurrence culturelle, civilisationnelle, tout ce qu'on veut, et qui n'aide pas du tout à la rencontre du Christ.
Un petit point d'ordre social, si je peux me permettre. J'ai fait une très très belle rencontre hier dans les transports, en fait dans le train pour ne pas citer, pour venir ici. J'ai rencontré Vincent, qui est un ancien, disons, catholique très très tiède, et qui est musulman depuis maintenant 5 ans. Une rencontre très intéressante, on a discuté pendant deux heures, et j'ai noté deux choses, mais particulièrement pertinentes, et qui devraient parler certainement à tout le monde, et j'ai été particulièrement touché. Il insistait sur la transcendance, et également, en fait, il a rencontré des musulmans qui lui parlaient de Dieu, en fait, d'Allah, mais de Dieu, enfin voilà. Ça l'a beaucoup touché, parce qu'il ne trouvait pas ça autour de lui auparavant. Et deuxième chose, et ça c'est très important, et beaucoup l'oublient, l'accueil. Il a été accueilli dans des familles, on lui a parlé, il a été accueilli en famille, et beaucoup ne retrouvent pas ça, en fait, dans notre foi et dans notre vie, hélas. D'accueil et passer du temps, et ça a été son cas, et bon, il a été converti, et maintenant il est convaincu. Bon, certes, il se trompe, mais voilà, il a trouvé une voie, mais c'est une discussion très intéressante hier. Voilà.
Ouais. Et justement, ça rejoint quelques questions qui est de la salle. Comment, alors, je la cite, évangélisant en banlieue lorsque je croisais des jeunes habillés en djellaba et en grande barbe, étant moi-même en soutane, on s'ignorait royalement. Comment briser la glace positivement ? Et une autre qui se rejoint, comment proposer concrètement la rencontre du Christ à un musulman ? En fait, déjà, ce serait comment est-ce que on accueille les musulmans ? Est-ce que l'Église, est-ce qu'il n'y a pas un chemin là-dessus, sur l'accueil de ces nouveaux chrétiens ?
Déjà, est-ce qu'on est convaincu ? C'est quelque chose que je dis tout le temps, hein, que ce soit une évangélisation de rue ou autre. Hein. C'est déjà, est-ce qu'on vit le Christ ? Est-ce qu'on a envie de partager sa vie avec lui ? Est-ce qu'on a envie de le transmettre ? Est-ce que c'est lui qui guide notre vie ? Est-ce que c'est lui qu'on veut faire partager ? Est-ce que c'est lui qu'on souhaite, entre guillemets, pour tout le monde ? Ben, déjà, ça, c'est la première question. Et une fois qu'on a ça en tête, qu'on a ça dans le cœur et qu'on ne peut pas en faire autrement, déjà, donc là, on peut tout, finalement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est... ça rejoint la première, en l'occurrence, c'est voilà. Si j'aime mon frère, si j'aime ma sœur, la personne qui est face à moi, ben, la meilleure chose que je peux lui donner, c'est le Christ. Bon, ok, très bien, je vais l'accueillir, très bien, je vais lui donner à manger, bon, super, très bien. Bon, voilà, on fait un dialogue, tout va bien, c'est purement social, bon, certes, mais au-delà de ça, il y a quand même aussi la volonté de lui transmettre le Christ. La meilleure chose pour toi, le bonheur, tu le trouveras dans le Christ. C'est lui qui va te porter le bonheur, il y a un autre, en fait. Déjà, ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on est convaincu de ça ? Je ne sais pas trop. Déjà, on va peut-être travailler sur ces questions-là. Troisièmement, le suivi. J'aime bien parler de suivi parce que on voit, bon, ils sont là, des jeunes convertis, des néophytes, très bien. On les accueille en famille, en communauté, bon, très bien. Et est-ce qu'on les suit réellement? Est-ce qu'on est tout le temps là avec eux, à en faire, leur faire, entre guillemets, le service après-vente, être tout le temps là constamment pour ne pas qu'ils retombent dans les mains de l'islam? Combien de jeunes convertis, hein, garçons ou filles, quittent en fait les rangs de l'Église, hélas, parce qu'ils ont été un petit peu abandonnés, ou on s'occupait d'eux, puis pour l'instant, à certains moments, ben, ils se retrouvent seuls ou voilà, isolés, et retombent, et sont, entre guillemets, des proies faciles, en fait, pour retomber dans l'islam, hélas. Donc il y a ces questions-là, en fait. Très bien, les convertir, super, au contraire, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, ben, je veux que tu restes là, donc je t'accompagne, en fait, et on est là, et tu peux compter sur nous, en fait. Déjà, ça, on peut déjà réfléchir sur ces questions.
Et Christine, c'est ce que vous avez senti dans les témoignages que vous avez recueillis, justement, ce fameux service après-vente?
Alors, je voudrais rebondir d'abord sur ce que dit Mathieu. Là, c'est vrai, être convaincu que c'est une nécessité et un acte de charité, en fait, de parler du Christ. Il y a beaucoup de musulmans qui ont été un peu choqués que les gens ne soient pas plus à témoigner de leur foi. Et pourquoi? Parce que c'est un courant parmi les chrétiens et les catholiques de se dire: ah mais non, mais l'islam, c'est une très belle religion. Ils ont Dieu aussi, donc je ne vois pas pourquoi je leur parlerais de la mienne. Je ne veux pas me mettre en concurrence. Et puis je ne veux pas qu'on se brouille aussi. C'est une question du vivre ensemble, avec l'idée que si je lui dis que moi, je ne pense pas la même chose que lui, on va être en bisbille. Alors que, justement, c'est plutôt l'inverse. Hein, ce que vous disiez, qu'un chrétien bien debout dans ses bottes qui va pas hésiter à dire là tu es en train de me dire qu'on a le même Dieu, mais je suis désolée, moi je t'aime bien et tout, mais en fait, hein, je suis pas d'accord là-dessus, ou c'est sur tel point, hein, rester bien droit dans ses bottes. C'est comme ça que le musulman va nous respecter d'une part, et qu'on va pouvoir créer une relation d'amitié vraie et juste là-dessus. Hein, donc certains des témoins que j'ai interviewés sont un petit peu choqués par l'attitude, enfin recherchent le Christ, veulent rentrer dans l'Église catholique et se heurtent à cette réaction de certains catholiques, y compris des prêtres, qui disent non, mais reste dans ta religion. Il y en a un qui, à la fin, finalement, devient prêtre, hein, Père Polyli Cheknoun, mais donc découvre le Christ, veut rentrer dans l'Église, imagine qu'il va suffire qu'ils disent je veux être baptisé pour que le jour même ça se fasse, rentre dans une Église. Bon, c'est un contexte aussi d'église en Algérie, hein, dans les pays du Maghreb, l'église n'est pas forcément très très libre là-bas, mais rentre dans une église, rencontre le prêtre, et puis lui disent, voilà, j'ai découvert Jésus, baptisez-moi. Et là, le prêtre lui dit, mais comment tu n'as pas honte de renier toute ta famille, de renier tous tes ancêtres, etc. Et là, il a été très très choqué. Ce qui fait que pendant des années, il a été très hostile à l'Église catholique, de l'avoir envoyé balader comme ça. Il s'est tourné vers les protestants. Bon, il est devenu prêtre quand même à la fin, hein, donc ça veut dire qu'il s'est réconcilié avec l'Église catholique. Mais ça l'a beaucoup perturbé, ça l'a beaucoup blessé. Et il y en a d'autres aussi qui ont reçu cet accueil, hein, dans l'Église. Non, mais reste où tu es, c'est très bien. Voilà, donc ça, c'est, pour nous, c'est, voilà, on fait preuve de bienveillance en leur disant oui. Et puis il y a aussi des catholiques qui vont dire, mais c'est criminel de vouloir les faire changer de religion, parce que tu te rends pas compte, ils vont se mettre en danger. Alors c'est peut-être l'inverse, hein, en fait.
Je peux ajouter un point, donc je rebondis sur ce qui était dit. Évangéliser, oui, mais pas obligé en fait de parler. L'Esprit Saint s'occupe de tout et utilise tout. Notre comportement, ayons en fait, bon, nous chez les scouts on appelle ça fait l'unité de vie, c'est-à-dire que tout ce que je dis c'est ce que je vis, et c'est un équilibre complet, et les musulmans seront, et on va les convertir aussi comme ça, par notre comportement. Qu'est-ce que je vis au quotidien? Est-ce que je suis en phase avec ce que je dis, avec ma pratique, hein? Déjà, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, oui, effectivement, tout à l'heure, vous parliez de frères, nos frères musulmans. Ben, moi, je ne suis pas trop d'accord, en fait. Il faut toujours préciser les choses. Ce sont des frères en humanité, oui, mais c'est tout. On n'est pas frères. Ça, il faut le préciser, attention. Je suis désolé, c'est un petit peu polémique, mais il faut le dire. On n'est pas des oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. On n'est pas frères. On est frères en humanité, mais c'est tout. Ça, il faut le préciser.
C'est déjà beaucoup ?
Ah, c'est déjà beaucoup, j'ai pas dit le contraire, mais on ne vit pas la même chose, on n'a pas la même réalité. Moi, je prie et je vis avec un Dieu qui est vivant, qui est ici. Et voilà. Eux, non. Moi, je vis avec un Dieu qui est proche de moi. Eux, non. Moi, je vis avec un Dieu qui a été réincarné. Eux, non. Donc, et moi, mon Dieu est trinitaire. Eux, non. Donc, on n'a pas le même Dieu et donc on n'a pas la même foi. Donc, on n'est pas frère en humanité, certes, mais c'est tout. Ça, c'est très important de le préciser. Le comportement, ça je l'ai bien dit aussi. Et je reparle encore d'accueil et d'écoute. Est-ce que, bien sûr on est convaincu, mais est-ce qu'on est prêt à rester 3 heures, 4 heures, 8 heures, 10 jours, j'en sais rien, à discuter avec un musulman et puis lui dire, mais tiens, voilà ce que je vis, et voilà, passer du temps avec lui. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? C'est une vraie question. Autour de moi, j'en vois pas beaucoup, hélas. Un point un petit peu négatif, désolé, l'évangélisation, et là je parle en connaissance de cause. J'ai eu aucun problème avec les musulmans, j'ai eu aucun problème avec les hindous, j'ai eu aucun problème avec les protestants, les athées, et puis même les juifs, ça se passait assez bien. Les seuls problèmes où j'avais, c'était avec les catholiques, qui ne comprenaient pas en fait qu'on fasse de l'évangélisation, ça ne leur parlait pas, et ils trouvaient ça de la perte de temps, ils ne comprenaient pas en fait l'objectif. Le gros problème qu'on a rencontré, que ce soit de métro, en fait, l'évangélisation du métro dans la rue, c'était avec les catholiques. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème à régler là aussi, si je peux me permettre.
Pour en revenir aux questions que vous nous avez transmises, sur comment on fait pour rentrer en contact, comment on fait... Je crois, compte tenu de ce passé qui existe et de la méfiance qui existe encore aujourd'hui, quand même, la première urgence, c'est le désarmement. C'est-à-dire que, malheureusement, on peut être, même sans le vouloir personnellement, dans des logiques de méfiance. Et donc, quand on est méfiant, eh ben, on est armé, on est sur ses gardes et on se dit bon. Et la première chose à faire, c'est de faire baisser ce genre de tension-là. C'est là que une évangélisation pas très ajustée, où on confond l'amour de la vérité et la passion d'avoir raison, peuvent plutôt ne pas trop aider. Au contraire, si c'est tu dois reconnaître que c'est moi qui ai raison, et puisque moi j'ai un Dieu d'amour et pas toi, franchement, en général, ça ne sert pas à grand-chose, et au contraire, ça augmente ce genre de tension. La première chose à faire, c'est essayer de montrer qu'on arrive réellement les mains vides, sans armes, et que la rencontre dans laquelle on entre n'est pas une stratégie pour réussir à finalement embarquer l'autre dans notre propre camp. Ça demande une spiritualité de la mission qui est très exigeante. Il ne suffit pas simplement de se dire, ah ben, attendez, on est combien on veut être, allons-y, on va grossir nos rangs. Ça, non seulement c'est un peu puéril comme attitude, mais c'est surtout totalement contre-productif. C'est-à-dire que ça nourrit, au contraire, le fossé et l'incompréhension, la difficulté de faire rencontrer le Christ. Donc la première chose à faire, c'est vraiment, je crois, le désarmement, dire je suis prêt. Vous parliez d'écoute, une écoute qui n'est pas stratégique, qui n'est pas attends, j'écoute ton blabla, je n'en pense pas moins, et je te sors mes prises de judo dialectiques à la fin, et hop, et du coup, ça y est, parce que j'ai le bon argument, le bon truc. La seule chose qu'on peut faire, c'est favoriser la rencontre du Christ, et on le favorise qu'en apportant réellement de la paix. C'est-à-dire pas en cherchant à... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord, loin de là. Mais certainement pas pour convaincre, voilà, ce que d'ailleurs Jésus dans l'Évangile fait peu. Il polémique peu pour convaincre en disant « Mais si, mais écoutez, je vous ai dit la vérité, alors maintenant, vous allez me suivre, mince. » C'est pas comme ça que ça se passe. Donc je crois que c'est ce premier élément. Et le deuxième élément, à mon avis essentiel, c'est d'arriver à construire de l'amitié. De l'amitié personnelle, c'est sans doute, c'est peut-être pas le seul préalable, mais c'est un préalable important pour arriver à parler de quelque chose d'aussi important et aussi difficile à exprimer que la relation à Dieu. Je vois souvent des couples de catholiques pratiquants du même milieu et tout ça, qui me disent dans la préparation de mariage, on a du mal à prier ensemble, on a du mal en fait à partager sur notre foi, alors qu'a priori, ils ont tout le truc commun. Mais pourquoi ? Mais c'est parce qu'on parle de choses, d'une intimité extrême, et c'est normal, et moi j'essaie de les rassurer en disant, mais oui, il y a quelque chose d'intime. Alors évidemment, derrière, se dire que deux inconnus qui ont en plus 14 siècles d'hostilité derrière eux vont se parler sincèrement de leur foi, quand même, je pense que si on veut avoir des discussions constructives où on se fait confiance, ça demande, d'une façon ou d'une autre, de construire de l'amitié, de la confiance, où je vais pouvoir, non pas sortir des arguments et dire « je représente le christianisme, moi je représente l'islam, et donc je ne faiblis pas et je balance mes arguments ». Non, non, si je peux vraiment parler de ma relation à Dieu, je me fragilise. Si je dis où j'en suis avec Dieu, je me fragilise parce que je me dis est-ce que j'ai les bons mots pour en parler ? Est-ce que l'autre ne va pas éclater de rire en disant « mais ce que tu me racontes, c'est ridicule, c'est l'histoire du Père Noël ?» Enfin, c'est toujours un petit peu inquiétant. Et on est sur quelque chose de à la fois très important et sur lequel on est un peu démuni. C'est essentiel d'arriver à le faire, mais ça demande de la confiance, ça demande de pas être dans une attitude réciproquement où on va polémiquer, balancer les arguments, ce qui globalement sert à rien, on le sait très bien. Et donc je crois que essayer de cultiver de l'amitié est assez essentiel. Peut-être que c'est pour ça que si sur le fond on peut discuter, je ne suis pas sûr que des formules comme je ne suis pas frère avec les musulmans servent. Qu'est-ce que ça veut dire être frère si la question est, oui, est
moi,
biologique.
Moi je suis là pour parler en vérité.
Mais moi aussi. Ça veut dire que c'est la formule. Non, mais la formule être frère. J'ai une sœur, je ne suis pas d'accord surtout avec ma sœur.
Je ne fais que préciser les choses.
Oui, mais simplement, la formule être frère ou pas être frère est une. À mon sens, ne repose sur aucune donnée objective. C'est-à-dire qu'on décide que quelqu'un est son frère ou pas. Ou alors on parle de pure biologie.
Est-ce qu'il a fait la rencontre avec Jésus ? Non, donc il n'est pas frère, dans ma foi. Il est frère en humanité, mais c'est tout. Et ça, c'est une réalité. Je suis désolé, c'est comme ça.
Non, mais c'est-à-dire que dire que les musulmans ne sont pas des chrétiens, je pense que là, on va être vite d'accord. D'appeler, de dire ce qu'on appelle frère, pas frère, c'est là qu'on n'est pas sur quelque chose d'objectif, on est sur un choix que vous faites, que je me permets de ne pas partager, parce que je trouve que c'est plutôt polémique qu'autre chose, et à mon avis, c'est utile, mais il ne faut pas s'engueuler sur les définitions. Mais voilà, de la même façon, je pense que la question... avons-nous le même Dieu est l'exemple même de la fausse question. C'est-à-dire que si la question est est-ce qu'on dit la même chose de Dieu, la réponse est évidemment non. Si le problème c'est que le Dieu n'est pas un concept qui nous est immédiatement accessible. Et donc se poser la question du point de vue de Dieu, alors là on ne comprend plus. C'est-à-dire que est-ce qu'un musulman quand il prie se tourne vers son créateur, oui. Est-ce que pour autant ce qu'il va dire de Dieu, ce que la tradition musulmane dit de Dieu est équivalent à la révélation dans le Christ ? Évidemment non. Mais la question avoir le même Dieu ou pas, je ne peux pas répondre à cette question, ni dans un sens ni dans l'autre, parce que en général, il me semble que quand on y répond, c'est plutôt pour dire quelque chose de la proximité qu'on veut avoir avec les musulmans que qu'autre chose. Mais voilà.
Ouais, j'ai intégré cette notion il n'y a pas très très longtemps, justement. Est-ce qu'on a le même Dieu, pas le même Dieu ? Ça ne me semble pas une bonne question. Ce qui me semble important, c'est la vérité sur Dieu. Voilà, il me semble que le christianisme, Jésus, hein, a apporté la vérité sur Dieu et ça a été, on va dire, corroboré par les signes qu'il a fait, hein, par les miracles et tout ça. Il me semble que l'islam parle de Dieu, mais je ne pense pas que ce soit la vérité sur Dieu, parce qu'il n'y a pas eu de signe déjà dans l'islam. Hein. Mohamed, c'est dit dans le Coran que Mohamed n'a jamais fait de miracle. C'est dit dans le Coran aussi que Jésus en a fait, hein, et certaines fois. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les musulmans suivent Mohamed qui n'a pas fait de miracle, alors qu'ils savent que Jésus en a fait. Après, c'est autre chose, mais...
J'aimerais revenir sur le chemin d'amitié dont vous parliez. C'est exactement ce que vous avez vécu pour votre conversion. C'est ces relations d'amitié avec des chrétiens qui s'est fait de manière assez douce et sur le long terme, finalement.
Oui, sur le long terme, c'est exactement ça. Donc, ce n'était pas effectivement soudain, hein, mais effectivement, beaucoup de fervents chrétiens autour de moi et qui n'ont pas spécialement... jouer la carte du christianisme à fond avec un grand C, ben voilà, tiens, tu viens chez nous. Non, pas du tout ça. Ça a été par dose homéopathique, peut-être, hein, excusez-moi en fait cette analogie, mais et c'était progressif, mais surtout, en fait, je retiens l'accueil, quoi. L'accueil. Donc, ils m'ont vraiment invité même chez eux, n'hésitant pas à faire quelques signes de croix aussi, devant des crucifix, en passant devant les cimetières, en fait, des choses très simples qui m'ont touché, hein, clairement. Et c'est pour ça que je disais que par notre comportement, on va les toucher. Donc, l'accueil, bien sûr, et puis un petit peu plus, c'était même des prières, m'inviter en fait à la messe, même si je ne comprenais pas grand-chose. À l'époque. Mais vraiment, voilà. Bah, tiens, Moustapha, bah, tiens, tu fais quoi aujourd'hui? Tiens, bah, on t'invite à prendre l'apéritif à la maison. Tiens, bah, un repas dimanche ou autre. Voilà. Mais invité. Et c'est fait, en fait de manière très, très progressive. Et du coup, ils étaient toujours là. Et puis même me guider sur certains éléments, certaines lectures. Mais voilà, ça n'a pas été brutal, comme on disait tout à l'heure, mais assez progressif. Ouais. Mais vraiment, l'accueil, ça, c'est important. Et puis, à l'écoute, hein, si j'avais des questions à leur poser. Et j'avais beaucoup de questions à leur poser, en fait. Et j'ai toujours trouvé des répondants face à moi, donc tant mieux. Voilà. Mais, et de faire bon chrétien, avec un comportement digne, et n'hésitant pas, en fait, à parler du Christ, et cette fraternité qu'il y avait entre eux aussi, en fait, un regard, des sourires, en fait, voilà, beaucoup de joie, en fait. Beaucoup, beaucoup de joie aussi.
Juste, je vais dans votre sens sur la question de l'accueil. Vous l'avez d'ailleurs dit tous les deux en développant l'un et l'autre la question vous parliez du service après-vente. Et il me semble qu'il y a une difficulté un peu spécifique dans nos communautés. Je ne sais pas si vous avez pu en être témoin. Moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. La difficulté pour un musulman baptisé, devenu chrétien, à devenir réellement chrétien aux yeux des autres. Des communautés chrétiennes qui ont tendance à enfermer la personne dans un rôle d'ancien musulman, voire de musulman tout court. Regardez, alors on est très fiers, regardez, on a notre musulman, il est là, et on le montre, et au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, à un moment, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être simplement un catholique parmi d'autres? Alors il y a en plus des questions sociologiques qui souvent rentrent un petit peu en compte, il ne faut pas se voiler la face, et en fait, c'est insupportable pour un certain nombre de convertis, d'être renvoyés constamment à ce qu'ils étaient avant. Je veux dire, personne se demande, personne me dit, tiens, au fait, toi, tu as toujours été catholique, qu'est-ce que tu étais avant? C'est une question qui n'existe pas. Pour un musulman, il ne s'en sortira jamais. Donc ça, c'est quand même... Enfin, il peut être dans des communautés où ils ne s'en sortent pas. Et ça, c'est, à mon avis, assez important à prendre en compte et pas souvent conscient, il me semble, dans l'Église de France.
Alors, toujours en France, merci de dire ça. Je pense que beaucoup, même à travers le monde, je pense que beaucoup de musulmans sont en recherche, comme je disais. Certains seraient en mesure de franchir le pas, mais par poids familial et social, et le que dira-t-on n'ose pas. J'en suis persuadé. Hein. En France, c'est le cas, pour en avoir déjà rencontré. Et puis, voilà ce qu'on lit sur certains forums. Et voilà, entre nous, on échange sur plusieurs questions, et en particulier pour ces jeunes futurs convertis ou possibles convertis. Hein. Voilà, n'osent pas parce que, comment ça se passait avec mes parents? Comment ça se passait avec mon milieu familiale, en fait, de la communauté. Voilà. Mais certains sont en mesure de franchir le pas, pourraient. Et grâce en fait, à nos actions, grâce à nos écoutes, à notre accueil, je pense que voilà, ils pourraient franchir ce pas et puis ben, du coup mettre en couvercle sur ce poids familial et social qui est vraiment impossible, voire très imposant.
Et vous, comment votre famille a réagi à votre conversion ?
Moi, ça se passe très très bien. Grâce à Dieu, j'ai pas eu de grosses difficultés. C'est très tabou à la maison, en fait, avec mes parents. Mon père est décédé l'an dernier, hélas. Mais avec ma mère, on n'en parle pas, hélas. Alors, ils l'ont appris différemment. En fait, ils l'ont pas appris par moi. Ils l'ont appris par une tierce personne, en fait, une amie de ma mère, qui, ben, en fait, j'étais à la messe, j'étais allé les voir pendant une semaine, et donc j'étais allé à la messe en semaine. Et puis, je me rappelle très bien la voisine qui était là, mais. Elle me regardait gros yeux, elle savait très bien que... Donc, et puis, elle a, a priori, elle en a parlé à ma mère enfin, le lendemain, et puis ma mère posait la question, elle disait, mais tu es Nsara, notamment, enfin, tu suis celui qui vient de Nazareth, en fait. Ben, je lui ai dit, oui, en fait, voilà. Et on n'a pas creusé cette affaire, j'aurais bien voulu, d'ailleurs. Avec mes frères et sœurs, ça se passe assez bien, ils l'ont assez bien pris. Bon, ils sont tous musulmans pratiquants et deux de mes sœurs sont agnostiques. Et il est en train de se passer quelque chose avec l'une de mes sœurs. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc, Jésus lui parle en songe depuis 3 mois. Donc voilà. Donc personne n'est au courant de la maison, ses enfants et son mari non plus. Mais c'est intéressant. Donc voilà, il faut qu'on en parle, elle et moi. Elle a été touchée par ma démarche et autres. Mais voilà, il se passe un truc. Bon, donc, c'est, bah, et je pense que dans beaucoup de familles, c'est ça aussi. Hein. Donc beaucoup n'osent pas, voient des choses ou sont en prière. Mais n'ose pas franchir le pas, hélas. Mais sinon, pour répondre à votre question, moi, ça s'est assez bien passé. C'est pas le cas dans beaucoup de familles, donc moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Hein. J'ai une amie, en fait, hein, qui faisait l'évangélisation de rue avec moi, en fait, en particulier dans le métro à Paris, qui, elle, par contre, des amis sœurs algériens ont été envoyés, en fait, pour. Elle a une fatwa sur elle, hein, donc voilà, elle est recherchée par sa propre famille, c'est très compliqué. Et même ses propres enfants, en fait, sa grande fille et son garçon, ne lui parlent plus du tout. Donc elle est convertie depuis 8 ans, baptisée depuis 5 ans, et ça se passe très très mal, et elle est chercher même dans sa propre famille, donc c'est une réalité. Je parle de la région parisienne, donc en France, c'est assez compliqué. Donc nombre de personnes sont dans cette situation, hélas.
C'est aussi dans les témoignages que vous avez, il y a beaucoup de gens qui ont des justement difficultés avec ce poids familial et social.
Alors ça dépend vraiment des personnes en fait. Hein. Dans certains cas, ça se passe mais vraiment comme une lettre à la poste avec une espèce de préparation déjà de la famille. Hein, il y a donc Inès dont la maman musulmane est toujours musulmane met des médailles miraculeuses dans le cartable de ses enfants. Il y a des statues de la Sainte Vierge. Elle écoute le jour du Seigneur, mais elle continue à faire la prière musulmane et tout, donc Inès assez logiquement, évidemment avec certains combats, mais devient catholique. La maman reste dans le quartier où ils sont, il vaut mieux pas qu'elle change de religion, mais la maman reste musulmane, mais quand elle voit que sa fille n'est pas bien, elle lui dit, dis donc, j'ai vu qu'il y avait une prière à Sainte Thérèse qui était organisée dans telle église, tu ferais bien d'y aller, et puis... Voilà, et puis d'autres fois où c'est la rupture totale avec des menaces. Il y en a un qui n'est pas dans mon livre là parce qu'il m'a pas donné l'autorisation en fait de le publier. Je vais dire pourquoi après, mais qui lui a été carrément attaqué au Maroc parce que sa femme avait fini par le dénoncer sa conversion. Il a été attaqué au sabre et il s'en est sorti grâce à l'épaisseur du col de son blouson en cuir. Donc ça peut être très très varié en fait. Hein. Le père Paul Elie, donc qui s'est algérien converti, son papa était très fier d'avoir un fils qui devienne prêtre et venu lui-même d'Algérie avec le vêtement sacerdotal pour le jour de l'ordination. C'est très très varié en fait. Hein. Je reviens. Pourquoi est-ce que Gabriel, j'ai pas pu avoir son autorisation? Eh bien c'est parce que il a coupé les ponts avec la communauté qu'il avait formée, baptisée, etc. Parce que au bout de 5 ans, il en avait marre d'être le musulman du coin. Et donc il a coupé les ponts. Il est allé à l'autre bout de la France. Et je ne sais pas s'il a continué en fait sa démarche de chrétien. Il n'est pas revenu vers l'islam, c'est sûr. Mais ça, c'était un poids pour lui. D'une part, mais d'autre part, en même temps, les musulmans, enfin les personnes issues de l'islam qui se convertissent, on aurait tendance aussi, dans un autre sens, à dire bon, bah maintenant il est chrétien, il est comme nous, hop, allez, bah il va s'intégrer dans la paroisse. En réalité, il y a toute la culture qui est différente derrière. Donc ça peut être bien aussi que il y a des associations justement de donc Notre-Dame de Kabylie de gens qui en plus de leurs activités paroissiales avec l'ensemble des catholiques se retrouvent entre eux parce que c'est important de parce qu'ils ont c'est pas parce qu'ils deviennent catholiques qu'ils adoptent aussitôt notre culture. Il faut vraiment faire la différence entre adhérer au Christ et puis adhérer à toute la culture chrétienne. Mais beaucoup de musulmans, quand ils se convertissent, deviennent aussi amoureux de la France. Ça a été mis en évidence par un auteur qui a rassemblé des témoignages aussi en disant ces gens deviennent vraiment des patriotes français, bon, même s'ils ont d'autres cultures en fait, mais aiment la France du fait qu'ils ont adopté Jésus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors il y a même également le contraire, à savoir être d'origine musulmane et avoir été accueilli en fait en France ou dans un pays donc de culture chrétienne et par justement l'accueil en fait en scolarité au contact en fait de chrétiens et autres, voilà, on peut effectivement non seulement avoir cet amour de la France et puis effectivement trouver le Christ si ça lui est donné. c'est ça en fait, hein, c'est pas...
Ce que vous dites, c'est ça dépend aussi si c'est une personne qui a toujours vécu en France.
C'est une personne qui a toujours vécu en France, oui. Il y a ça aussi. pour ma part, nous, on est né en France. Je ne suis pas très loin, à 150 km d'ici. Voilà, donc, je connais très, très bien tout. J'ai fait une partie de mes études. Donc, je parlais de ruralité tout à l'heure. Hein, donc, nous, on a été vraiment introduits dans la société locale. Nos parents ont toujours cherché à insuffler en fait l'amour de la France, le drapeau, hein, l'honneur du drapeau. Et puis, surtout, hein, encore une fois, c'est la France nous a tout donné. Elle a accueilli en fait mes parents, qui étaient dans une détresse économique aussi. Donc, elle a accueilli mes parents, nous a donné un toit, hein, a donné du travail à mon père, nous a donné l'instruction quand même. Et puis, c'était le moins des choses. Et nos parents nous ont inculqué, d'ailleurs, nous ont fait grandir dans cet amour de la France, parce que la France nous a tout donné. Donc, la moins des choses, c'est de tout redonner également à la France. Donc, je suis un privilégié, hein, comme je disais encore au tout départ, en introduction. Mais hélas, on parle également de pas mal de problèmes, en fait, de djellaba, en fait, et autres, Abiya et autres, dans les banlieues ou dans des grandes villes. J'en parlais tout à l'heure, c'est la ruralité et le côté urbain, c'est deux mondes complètement différents et qui, hélas, ne se côtoient pas. Voilà. Donc, donner l'amour du Christ à ces banlieusards, c'est une mission très très compliquée. Et passer du temps dans les cités, ça ne doit pas être évident quand même en fait. Certains, donc petits gris en fait, de le Bronx, y arrivent très bien. Hein, les réalités états-uniennes et les françaises sont légèrement différentes, certes, mais. Est-ce qu'on est prêt aussi, effectivement, à être bien armé et vouloir apporter le Christ dans les cités? Je pense qu'il y a beaucoup de travail encore sur ce chemin-là.
Justement, ce que vous disiez dans votre livre, c'est que l'évangélisation des musulmans est un terrain missionnaire peu investi. Et vous faites partie de la mission Ismerie.
Ouais, je travaille, quoi. J'œuvre avec mission Ismerie. En fait, nous, notre principe, c'est essentiellement donner ou tâcher de donner en fait le Christ musulman et en particulier former les paroissiens. Parce que ça demande des curés, en fait. Donc, on intervient directement dans les paroisses et donc de former donc les paroissiens à qu'est-ce que tu pourrais dire aux musulmans, qu'est-ce que l'islam, comment un musulman pense. c'est important ça aussi, dans quelles sont ses réalités familiales, quelles sont ses réalités sociales, et son rapport donc à Dieu. Donc voilà, on est invité. Donc nous, notre principe, c'est de former ces paroissiens, qu'ils soient en fait de bons relais finalement, de bons relais en fait dans les cités, si c'est le cas, ou dans l'évangélisation de rue, parce qu'on voilà, on procède immédiatement à l'évangélisation de rue après avoir été formé. Voilà. Mais c'est vraiment transmettre le Christ et essayer d'écouter l'autre. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure en fait de dialogue, vous parliez tout à l'heure aussi en fait d'amitié. Donc effectivement, se tisser des liens d'amitié pour par la suite, effectivement, peu à peu, donc par dose homéopathique, lui parler de Christ. Et voilà.
Oui, moi je voudrais reprendre un petit peu. C'est effectivement, les musulmans peuvent être convertis parce qu'ils ont rencontré des chrétiens fraternels, parce que des chrétiens leur ont parlé en évangélisation de rue, etc. Mais la plupart en fait des témoins de mon livre n'ont pas rencontré de chrétiens avant. En fait, c'est le Seigneur lui-même qui est intervenu. C'est-à-dire, on a parlé hein, de songes. Il y en a pas mal qui ont des songes, qui ont des visions, qui ont des hasards extraordinaires. J'ai parlé de Nadia qui, sur le point de se suicider, qui avait tout organisé et qui dans un sursaut de peut-être de culpabilité dit à Dieu, je sais que ce que je vais faire c'est pas bien, mais montre-moi la lumière. Sa fille à ce moment-là lui propose d'aller voir une cousine qu'elle aime beaucoup qui est assez loin. Et donc pendant tout le voyage en voiture, répète, montre-moi la lumière. Elle arrive dans un parking, elle descend de voiture et elle voit sous la voiture d'à côté un petit livre qui a été comme jeté, oublié là. Donc elle dit, je ne fais jamais ça, mais là j'étais poussée à ramasser ce petit livre. Elle regarde le titre et le titre c'est « Je suis la lumière ». Voilà, et c'était un catéchisme à l'ancienne mode et qui parlait de Jésus, bien sûr, hein, c'était de Jésus dont il s'agissait. Donc le Seigneur agit très puissamment souvent pour préparer le cœur de ces personnes, hein, pour se révéler à elles aussi. Donc quand on dit faut-il convertir les musulmans, moi je pense que la question était volontairement peut-être provocatrice, hein, mais moi je dirais c'est le Seigneur hein, qui va préparer les cœurs de ces personnes-là, c'est le Seigneur qui convertit, c'est les personnes aussi qui par leur propre volonté, en exerçant leur volonté, hein, se tournent vers le Seigneur. Nous on a, ça l'a été dit tout à l'heure, nous on est les instruments hein, du Seigneur et peut-être les moissonneurs de choses qui n'ont pas été semées par nous, mais soit par d'autres, soit par le Seigneur lui-même.
Et le taureau est fertile, le terreau est fertile en fait, hein, je veux dire, parce qu'ils sont vraiment en recherche de Dieu, donc ils sont dans une pratique certes qui n'est pas la nôtre, mais le taureau est fertile et je pense que Dieu prépare également, effectivement, comme vous dites si bien, et tant mieux, et heureusement, leur cœur à cette réception en fait du Christ. Voilà. Hein, tout est fait pour ça.
Vous disiez qu'il y a une vraie soif de Dieu chez les musulmans. Je crois qu'il existe assez peu de chiffres, mais il y a environ 10% des nouveaux catéchumènes qui sont issus de l'islam.
Dans les... je crois que c'est 350 à 400 par an, d'après ce que... c'est ça, à peu près. Ouais.
À peu près. Il y a une question peut-être pour vous, frère Adrien. Peut-on favoriser des liens entre les catholiques français et les communautés chrétiennes orientales pour favoriser l'intégration dans l'Église de nouveaux convertis de culture non occidentale ?
Alors, c'est une question intéressante et compliquée. Pourquoi ? Parce que, je pense à une réalité que je connais qui est celle de l'Égypte, dans laquelle il y a des communautés chrétiennes, c'est dans le monde arabe la communauté chrétienne numériquement la plus importante, hein, les coptes c'est autour de 10% de la population de l'Égypte, bon, on n'a pas de chiffres précis, mais c'est de cet ordre-là. Est-ce que c'est en France la bonne porte d'entrée pour convertis venant du monde arabe, j'en suis pas tout à fait convaincu, parce que de ce que je peux voir en Égypte, où la cohabitation n'est pas nécessairement houleuse, hein, elle est même souvent assez pacifique, Il y a des contre-exemples et tout ça, mais globalement, l'Égypte est un pays où ça se passe pas mal. Il y a d'autres pays du monde arabe où c'est beaucoup plus compliqué. En Égypte, il y a des situations très, très contrastées. C'est ça qui est difficile. Mais parfois, à 10 km de distance, il y a deux villages où la situation va être très, très différente. Mais quoi qu'il en soit, même dans un cadre où la situation n'est pas mauvaise la plupart du temps, on a des communautés qui vivent leur religion aussi sur le plan identitaire, communautaire, comme ce qui les éloigne fortement. Le passage d'une religion à une autre est totalement impensable dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on peut dire « Ah, mais les musulmans ne sont pas gentils, ils ne veulent pas que les musulmans se convertissent au christianisme. » Mais vous êtes un chrétien égyptien qui devient musulman, alors la loi vous y autorise, ce qui n'est pas rien. Mais vous perdez absolument tout contact avec la totalité de votre environnement social. C'est-à-dire que vos parents vous renient aussi, et la plupart du temps, enfin après il y a toujours des situations différentes, mais globalement vous perdez, vous n'êtes plus du tout en contact avec la communauté qui jusque-là vous a porté et suivi. Et donc tout ça pour dire que ce sont des communautés religieuses qui se connaissent, qui se fréquentent peu au plan religieux, même si après dans la vie courante vous avez des collègues d'une autre religion, tout ça est normal, mais c'est pas... du coup, ça, je ne suis pas sûr que ce soit si simple de donner à des croyants le sentiment qu'ils sont passés dans la communauté d'en face. Ça ne simplifie pas, à mon avis, tellement les choses. Au plan culturel, peut-être un peu, mais au plan personnel, je ne suis pas très sûr.
Vous vouliez réagir, Mathieu ?
Non, ce sont des réalités effectivement que j'ai vues aussi donc au Liban, hein, donc on est d'accord, hein, et d'un village à l'autre. C'est bien de le préciser parce que puis même à 2 km, on peut avoir des réalités complètement différentes, mais une cohabitation en fait importante aussi qu'il faut noter, hein, et qui habituellement se passe relativement bien. Voilà. Alors, effectivement, c'est pas le cas dans tous les pays arabo-musulmans. Je suis d'accord avec vous.
Justement, on a une question. Le meilleur exemple du témoignage de chrétiens auprès des musulmans n'est-il pas celui des moines de Tibérine ?
Alors, j'ai beaucoup d'affection pour les moines de Tibérine et pour globalement l'église d'Algérie. Si je pinaillais, je dirais bon, la question qui dit le meilleur exemple... Il n'y a pas de meilleur exemple, il y a des réalités différentes. Il ne s'agit pas de distribuer les prix d'excellence, au sens où il y a des situations différentes dans lesquelles des chrétiens sincèrement essaient de vivre, de suivre l'Esprit Saint là où il est, et de se mettre une fois encore, ce que j'essayais de dire au début, de se faire les collaborateurs de Dieu, de l'Esprit Saint, déjà à l'œuvre. Je crois que c'est profondément ce que les moines de Tibérine ont cherché à faire, dans leur situation, avec leur vocation de moine, dans une situation particulière qui est globalement l'Algérie d'après l'indépendance et jusqu'à la guerre civile algérienne avec ces situations. Tout le monde ne devient pas les moines de Tibérine. Et tant mieux, je veux dire, il y a des vocations différentes, il y a des approches différentes, il y a des choses. Voilà. Donc, une fois encore, je ne sais pas pour dire que oui, les moines de Tibérine, on peut quand même leur reprocher des trucs. Vraiment, ce n'est pas du tout mon propos. Mais il faut reconnaître qu'il y a des situations et des cadres un peu différents dont il faut tenir compte. Et la question est, on n'a pas de la réponse ne se trouve pas dans un manuel qui aurait déjà tout prévu. La réponse, elle se situe dans une attention à ce que l'Esprit Saint attend de nous, qui veut dire aussi une attention à ce que les gens vivent. C'est pour ça qu'on parle d'écoute et de... si on n'aide pas les gens à comprendre que Dieu est déjà présent dans leur vie, on ne les aidera pas à le trouver. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la mienne que les gens vont trouver le Christ. Hein, c'est dans leur vie, c'est dans leur... Donc une attention à ce qu'ils vivent déjà, là où Dieu est déjà présent, là où Dieu est déjà en train de les guider. Donc il me semble que on ne peut pas simplement avoir un modèle, mais qu'il y a plusieurs, certainement, manières de faire. Enfin, la seule manière de faire, c'est d'essayer de, de suivre l'Esprit Saint qui nous précède.
Je peux faire une parenthèse ? Merci. L'évangélisation de rue, certes, l'Esprit Saint nous conduit vers les gens, mais il conduit également les gens vers nous, parce que l'Esprit Saint a beaucoup de choses à nous dire, et à travers les musulmans, c'est pour ça que l'Esprit Saint souffle aussi et on nous renforce dans notre foi. Donc être au contact, il n'y a pas que nous, mais c'est également eux vers nous, en fait. Ça, c'est très important.
Oui, Christine, vous me disiez que, quand on a discuté avant la table ronde, que c'était des témoignages aussi des musulmans qui nourrissaient votre propre foi.
Oui, c'est ça. Alors, déjà de voir la fidélité de ces personnes avant leur conversion, hein, la fidélité à la prière, de voir cette décence aussi. Bref, c'est ces choses-là qui peuvent donner envie. Et donner envie de le retrouver, hein, parce qu'en fait, on a tout ça dans l'église. Hein, déjà, la fidélité à la prière. Moi, j'habite dans un village à côté de l'église qui sonne l'Angélus. Hein, voilà, donc l'Angélus trois fois par jour. Pourquoi ne pas se remettre à dire la prière de l'ange et je vous salue Marie à chaque fois qu'on entend les cloches. Donc peut-être ça m'a donné envie justement de retrouver cette pratique ancestrale de fidélité à la prière, ce qui n'exclut pas un temps de prière personnelle, etc. aussi. Hein. Et puis de voir les prises de risque en fait, hein, que beaucoup vont avoir pour se tourner vers Jésus, hein, et moi, voilà, l'église elle est juste à côté de chez moi, et je prends beaucoup moins de risques, mais quelquefois je développe beaucoup moins d'efforts alors que moi j'ai pas ces risques là donc ça va être quelque part un modèle, hein, pour me dire bon ben ils sont courageux, moi je peux l'être aussi un petit peu. Et puis c'est stimulant aussi de voir ces jeunes convertis, de voir leur soif, de voir leur émerveillement devant des choses qui, pour moi, des choses de la foi catholique, hein, pour moi, sont passées un petit peu dans les habitudes. Ça a renouvelé un petit peu mon regard sur la messe, sur l'Eucharistie, sur la parole de Dieu aussi. Ça peut vraiment être le fait d'avoir rencontré ces personnes-là, hein, ça a vraiment stimulé ma foi de chrétienne, hein, en disant ils font tous ces efforts, c'est sûrement que ça vaut le coup, non pas que je l'avais oublié, hein, mais voilà, ça va me le rappeler un petit peu, hein, que ça vaut le coup, voilà, d'aller davantage dans ma foi, de creuser davantage, d'avoir davantage de confiance dans l'Église aussi et dans la parole de Dieu.
Bien, merci, je crois que notre table ronde touche à sa fin. Donc la question était, faut-il convertir tous les musulmans ? Ce qu'on pourrait dire, en tout cas en réponse, c'est nous avons le devoir d'annoncer le Christ à tout le monde. Ça peut nous donner quelques pistes, justement, pour le dialogue. Merci à tous.